Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Et pouf, tout change.
Simon Dutin.
On vous avait dit que ça figurerait très rapidement dans les jingles des grandes gueules du sport. Et pouf, tout change. 10h08, c'est le retour des grandes gueules du sport. On est ensemble en direct jusqu'à midi, en compagnie aujourd'hui de Marie Martineau, David Douillet et Arnaud Assoumani, qui pour sa grande première dans l'émission sera soumis tout à l'heure à l'interrogatoire de ses camarades. Les grandes gueules vont le cuisiner. On attaque la deuxième heure de cette émission. Si vous avez raté la première, sachez que vous pouvez d'ores et déjà la retrouver en podcast sur le site rmcsport.fr et puis sur toutes les applications dédiées. On sait que vous aimez bien picorer un petit peu comme ça l'émission ou rattraper lorsque vous avez raté pour une raison ou une autre. On sait que c'est les vacances et qu'il y a autre chose à faire. Sachez que c'est possible. On a parlé de Corinne Diacre et des Bleus. Ont-elles réussi leur euro? Est-il d'ores et déjà le moment de prolonger le contrat de la sélectionneuse? Et puis Cristiano Ronaldo, il veut un autre club, il n'en trouve pas. Et le Portugais est-il un has-been? On a posé la question à nos GG. Mais pour l'instant, on s'intéresse à la punchline de la semaine.
RMC, la punchline GG.
C'est pas quand on fait du sport de haut niveau qu'on crée des médailles. C'est en créant du nombre de gens qui sont passionnés de sport. Aujourd'hui, je suis désolé, on n'a pas l'esprit sportif pour créer ça. On a un esprit sportif, mais il est modéré. C'est le sport en plein air. Quand on a cet esprit, il faut prendre une médaille comme un exploit. Il ne faut pas le prendre comme quelque chose qui est donné.
Alors Kevin Mayer, vous l'avez reconnu, avait des choses à dire et un message à faire passer dans la foulée de son titre mondial du décathlon lorsqu'Aurélien Tiercin lui a tendu la perche du micro RMC. L'athlète français qui dénonce donc la culture du sport dans notre pays, source de disette en termes de titres et récompenses dans les grandes compétitions. Alors cette question, les grandes gueules, d'accord ou pas d'accord avec Kevin Mayer? Je me tourne naturellement vers toi Arnaud pour commencer.
Oui, d'accord avec Kevin.
Oui, d'accord avec Kevin pour Arnaud. Marie Martineau.
En grande partie d'accord avec Kevin.
Marie Martineau en grande partie, donc je veux trois quarts de oui, d'accord. David Douillet.
Ah, moi je vais faire le débat, pas d'accord.
Il n'est pas d'accord, David.
Yes.
Écoutez, je vais donner la parole à Arnaud quand même, effectivement, athlète olympique. Toi, tu.
Paralympique.
Paralympique et olympique, on va arrêter avec ces distinctions. Tu as suivi évidemment la performance de Kevin Mayer qui a donné quand même effectivement une leçon de. Il est allé se la chercher celle-là. Il n'était pas en tête. Il était sixième après les premiers jours d'épreuve. Bon, il a magnifique titre olympique, mais effectivement, quand on regarde autour, c'est le
champion
désert.
Du monde, deux fois champion titre. Du monde. Déjà énorme performance de la part de Kevin. Sincèrement, super impressionnant parce que après la première journée, c'était pas fait. Il a sur certaines disciplines où d'habitude il est bon, comme le poids par exemple ou de discipline, ça, il a pas été très bon. Bref, par rapport à au manque de culture de sport en France, en fait, ce qu'il dit, c'est simplement un fait. On sait que statistiquement, les jeunes font moins de sport. Il y a du sport en plein air. Là, je parle même pas du sport en compétition, du sport de manière générale. Voilà, on sait que la sédentarité, c'est quelque chose qui est de plus en plus important, notamment avec tout ce qui est digital, les jeux vidéo, etc. Donc, le sport, la culture qu'on a du sport, c'est surtout tourné autour du foot, autour de aussi du handball, du rugby, des sports co, moins des sports individuels et des sports qu'on peut retrouver aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques. Et donc, cette culture, elle passe par l'éducation, par l'école, par les clubs. Les clubs, c'est du bénévolat en France. Il y a beaucoup moins de bénévoles parce que les gens ont besoin d'être payés, ce qui est assez logique. Donc, derrière, les sportifs et sportives de haut niveau vont être la locomotive et vont tirer, justement, créer des vocations. Et ces vocations, elles sont créées notamment par les victoires, par les médailles. Et pour ça, il faut effectivement avoir plus de monde qui fait du sport, mais aussi plus de moyens pour les sportifs de haut niveau qui ne sont pas dans le confort, comme j'ai pu le lire sur Twitter tout à l'heure. C'est le cas pour une minorité réelle. Et donc, les athlètes, lorsqu'ils n'ont pas forcément les moyens pour s'entraîner et n'ont pas l'habitude d'être aussi à très très haut niveau, parce qu'ils ne sont pas qualifiés, parce que les minima sont trop élevés, et derrière, c'est compliqué pour eux et pour elles de faire des médailles.
David, difficile de donner tort à Arnaud lorsqu'il parle effectivement de du manque de moyens, notamment financiers. On en revient toujours à ça, dont bénéficient la plupart des sportifs en France. Pourquoi t'es pas d'accord avec Kevin Mayer, toi?
Je suis pas d'accord parce que la France est un pays pauvre. On peut pas dire qu'en France on fait pas de sport, c'est pas vrai. Les derniers chiffres le prouvent. On est à 44 millions de pratiquants. On est aux, entre 15 et 16, peut-être on va peut-être atteindre 17 millions de licenciés. C'est pas rien. On est que de mémoire 67 millions. Voilà, c'est quand même plus de 50%. Ça fait 60%, 65% de la population française qui fait du sport. On fait du sport. Alors que il faut bien distinguer deux choses. Il y a le sport de masse en général et il y a le sport de haut niveau. C'est vrai que dans le monde de l'éducation, on pourrait mettre un boost, avoir un peu plus de considération pour le sport dans notre système éducatif. Je trouve que c'est pas encore le cas. Et là, Kevin a raison, Arnaud a raison et Marie aussi. Pour moi, c'est pas encore satisfaisant, c'est clair. Mais on le trouve à côté dans des structures associatives, etc. Il y a quand même quelque chose qui fonctionne bien, heureusement. On a les bénévoles qui sont là, qui fabriquent le sport. Sans eux, rien ne pourrait exister dans le monde du sport français. On est pluridisciplinaire par rapport à d'autres pays. On pratique beaucoup plus de sport dans le nombre de sports pratiqués. Si on nous compare à l'Angleterre, à l'Allemagne ou à l'Espagne, hein, nos pays qui sont européens, je peux vous dire qu'on n'est pas si mal. Enfin, on est bien lotis en termes de pratique sportive. Après, le haut niveau, c'est une autre histoire. Il y a des fédérations qui fonctionnent et d'autres qui fonctionnent mal. Malheureusement, là, et Kevin a raison, au niveau de l'athlétisme, et c'est l'exception qui confirme la règle, ça fonctionne pas. Ça fonctionne plus, malheureusement. Et là, manque de moyens, oui. Manque d'encadrement, oui. Manque de bonnes décisions, oui. Manque de stratégie, oui. Ça, oui. À l'échelle de nos sports au collectif pour ce qui est de la compétition, ça demande en ce moment, c'est vrai, un souffle qui, pour tirer vers le haut. On a Paris, on a les Jeux. Je trouve que le souffle, il est pas encore là. Je le sens pas venir. On a eu dans les années 2000 et un peu après des générations. Je parlais que de l'athlé entre autres, avec Marie-Jo et d'autres, Jean Galfione, etc., etc., et dans d'autres sports. Il y avait des mecs qui gagnaient, des nanas qui gagnaient dans tous les sens, dans toutes les disciplines. C'était magnifique. Puis ça s'est un peu essoufflé. Il y a eu un petit phénomène générationnel. Il y a eu d'autres grands champions depuis, dans d'autres disciplines. Et là, depuis la dernière ligne droite avant les Jeux,
oui, il y a surtout d'autres pays qui se sont emparés du sujet sport et qui en ont vraiment fait une priorité, et c'est pas notre cas. Je crois qu'on est un pays de sportifs. Les Français aiment s'adonner au sport, quel qu'il soit. Ça fait pas de nous un pays de sport. Il y a qu'à voir le fait qu'on s'est battu pour avoir une demi-heure de sport scolaire par semaine chez les 8-12 ans. C'est terrible. Par rapport à ce que dit Kevin, il parle de nombre à la base, de l'effet pyramide. Il a entièrement raison. C'est parce que tu as beaucoup de pratiquants à la base que tu arrives à avoir des résultats au sommet. Ça, c'est clair et net. Et pour le coup, la Fédé a été très mauvaise. On en a déjà parlé, mais ne pas envoyer toute la capacité potentielle sur ces championnats du monde, c'était juste se fermer la porte à des médailles potentielles.
On précise, on parle de ces minima imposés par la Fédération française d'athlétisme, qui étaient encore plus sélectifs que les minima de la Fédération internationale. Non, et la France n'a pas souhaité. Voilà.
Et Arnaud, on a reparlé. Ça, c'est un véritable, vrai problème. Il va vraiment falloir qu'on se penche là-dessus. Les valeurs du dépassement de soi, il parle de ça. Kevin, c'est vrai que ça se perd à tous les niveaux, même à l'école où maintenant on ne doit plus mettre de notes, il faut surtout pas frustrer les élèves, faut pas frustrer les enfants, faut jamais dire non, faut pas poser de cadre, ça c'est des choses bon, chacun voit midi à sa porte. Moi personnellement ça me gêne, et donc je le rejoins là-dessus. Valeur dépassement de soi, on n'y est pas vraiment. Résultat, ça fait quoi? Des médailles exploits, comme il le dit, et non vraiment des médailles qui pourraient être la résultante d'un schéma du sport en France qui va des subventions à comment on gère les gamins à l'école et tout ça. Tu vois, j'ai un exemple, Simon, je finirai là-dessus. Ça fait, je sais pas, 40, peut-être 60 ans que les enfants en Savoie skient gratuitement. Skient gratuitement parce qu'ils ont accès au télésiège, c'est chez eux.
Parce que c'est leur terrain de jeu.
C'est leur terrain de jeu et tout. Et bien là, ça y est, l'État s'attaque à ça pour une question de principe de tarifs discriminants par rapport aux enfants qui n'habitent pas à la montagne. Et donc, il va falloir que les parents déboursent peut-être 500-600 balles pour avoir un forfait saison pour que les gamins puissent aller skier tout le temps. Tu vois, on marche sur la tête. Si on était un pays de sport, on dirait, ok, c'est vrai que les lois anti antidiscriminantes sont très importantes, mais il faut faire avec les exceptions, il faut travailler pour que qu'il y ait des gamins de 8 ans puissent continuer à faire du ski gratuitement.
Et profiter peut-être des spécificités locales, c'est pas complètement farfelu d'imaginer que les futurs champions de ski sont nés au pied de la montagne David.
Bah oui.
Et juste pour rappeler un peu d'actualité, lundi dernier, le président de la République a dit la pratique du sport est décrétée grande cause nationale.
Alors,
en 2024.
Elisabeth Borne l'a rappelé en déplacement sur le Tour de France cette semaine.
Exactement.
C'était après le Conseil olympique et paralympique de lundi à l'Élysée. Je comptais évidemment venir vous chercher là-dessus. Vas-y David, poursuis.
Bah voilà. Enfin moi, mais c'est formidable. J'adore ce genre de phrases, de discours. Ça veut dire que le sport va faire partie de l'héritage des Olympiques et Paralympiques de 2024. Le gouvernement va se mobiliser pour développer la pratique sportive, donner envie de faire du sport. Mais excusez-moi, mais on se réveille que maintenant? Voilà, c'est ça que je dis. Mais franchement, sans rire, ça fait 7 ans qu'on nous a accordé les Jeux. Enfin, pas 7 ans, mais 5 ans. Dans 2 ans, ils ont lieu chez nous. Mais on se réveille que maintenant pour dire ça. Mais c'est pas possible. Ça, on l'aurait déjà dû le dire. Enfin, il y a des lustres qu'on aurait dû. Le sport doit être un des socles de connaissances en France pour que. Et c'est. Je retiens encore les propos de la première ministre qui dit à un moment donné, c'est aussi valoriser tous les atouts du sport pour apprendre la vie en société, s'accrocher dans un métier. Mais elle se réveille maintenant.
David.
Mais c'est à pleurer quoi.
David,
c'est hallucinant.
Ça fait 30, ça fait 40 ans, aucun gouvernement n'a jamais.
Mais j'en ai fait partie, je suis bien placé pour le savoir.
Effectivement,
c'est monstrueux.
On
a affaire à un colosse. Mais je suis d'accord avec toi, Simon. Mais ça me fout hors de moi. Enfin, j'adore qu'on le dise, mais je suis tellement chagriné et malheureux qu'on le dise que maintenant, le sport et ça remonte à l'époque où et à des lustres, hein, Bayrou, à l'époque était ministre de l'éducation, qui n'avait pas, il me semble que c'est lui, hein, ou peut-être Fillon, je sais plus, enfin bon, peu importe, en tout cas le ministre de l'éducation de l'époque, et c'est vieux, oui, n'avait pas considéré que le sport faisait partie des socles de connaissances dans notre société. Mais mon Dieu, c'est pas possible. C'est pas possible, ça. Le sport, on apprend tout dans le sport. Ça véhicule tout sans que ce soit écrit, sans que ce soit dit. On l'apprend en le faisant. C'est le seul truc qui grave sur le disque dur d'un gamin des valeurs incroyables de vie en société, de partage, de travail, de dépassement de soi, etc., etc. Enfin, voilà, c'est une des matières qui permet aux autres matières d'être encore plus efficace. C'est quand même incroyable de voir ça aujourd'hui. Il faut avoir les Jeux 100 ans plus tard pour se rendre compte de ça. Voilà. C'est pas possible.
Ah, on aime bien quand tu t'énerves un petit peu, mon David. Hein, là, il y a de la conviction là.
Donc, il a complètement basculé dans notre camp là. Hein.
il a un petit peu retourné ça.
Il a pas de
ça. Mais voilà, mais c'est ça, l'auto-persuasion, les arguments viennent au fur et à mesure du débat et on se rend compte qu'effectivement, on peut changer d'avis ou que finalement on n'avait pas l'avis. Arnaud, je me tourne vers toi parce que toi, t'es membre de la FED d'athlétisme.
Non.
Non. Bah écoute, super.
Non, je suis athlète.
J'ai bien beaucoup. Oui, bah, c'est
Donc tu connais
le fonctionnement, je veux dire, oui. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Est-ce que en tant qu'athlète, à 2 ans des Jeux de Paris, tu crains, je sais pas, le carnage, quoi, l'absence de médailles olympiques, paralympiques, ou en tout cas qu'on n'atteigne pas les objectifs qu'on pourrait atteindre chez nous en faisant différemment.
Alors je sais plus quand j'ai revu les images. Mais c'était sur une émission d'Emmanuel Macron lorsque on était à l'Élysée reçu après les Jeux de Tokyo. Mm-hmm. En nous haranguant.
Ce jour-là, tu t'es fait gronder parce que
on s'est tous fait gronder parce que alors moi j'ai pas fait de médaille en plus en revenant à Tokyo donc
prenez
doublement personnellement.
Ouais, vous êtes fait engueuler.
On n'a pas fait. On peut faire mieux. On peut faire mieux. Alors déjà plus de moyens, s'il vous plaît, pour les athlètes de manière générale. Moi, j'entends le discours, il n'y a pas de souci, hein, c'est un discours où les sportifs, bien évidemment, on veut faire mieux, c'est un peu notre tous les jours, on essaye de travailler là-dessus. Après, il y a aussi le fond, et effectivement, ça ne se crée pas 2 ans avant les Jeux, et c'est bien, moi je suis content d'entendre ces discours. Maintenant, il faut mettre les actes, il ne faut pas que ce soit une posture, simplement.
Eh oui.
Parce que les enjeux sont trop grands. David en a parlé, je suis complètement d'accord avec ce qu'il vient de dire, d'un point de vue d'éducation, des valeurs du dépassement de soi, mais le dépassement de soi, en fait, pas d'un point de vue malsain et de vouloir être meilleur que l'autre, parce que le dépassement de soi, c'est pas ça. La compétition peut être saine et justement fait en sorte qu'on cherche à mieux se comprendre et à faire des efforts à un moment, voir quelles peuvent être nos limites. Et ça, c'est important, en fait, parce qu'on apprend à se connaître. Ça fait partie des expériences de la vie. Dans tous les cas, tôt ou tard, de quelque manière que ce soit, on va vivre des crises, on va vivre des échecs, que ce soit individuel ou collectivement. Donc c'est essentiel. Et puis, d'un point de vue santé, en fait, enfin, on a une bombe à retardement, en fait. Et je pense qu'on le sait, on est une population vieillissante comme toutes les populations européennes. Et en fait, moi, je trouve ça catastrophique. Quand David, tu disais, on est un pays qui fait énormément de sport, je suis complètement d'accord avec toi. On est une exception culturelle encore, parce que je pense qu'on est le pays au monde qui représente le plus de diversité sportive au monde. Sauf que maintenant, avec la stratégie qui est plus sur un peu le modèle UK Sport, qui est de mettre plus d'investissements sur des sports qui ont le potentiel de rapporter des médailles. Du coup, l'autre base, il faut quand même des moyens pour le sport issu du bénévolat, pour les associations sportives, et c'est surtout motiver les jeunes. Là, quelque chose qui est très intéressant dans ce que tu disais, c'est que pour moi, c'est pas du tout, quelque part, c'est générationnel, mais c'est surtout culturel par rapport au fait qu'il y a des nouvelles technologies qu'il n'y avait pas il y a 20 ans, il y a les jeux vidéo qui n'avaient pas autant de résonance, d'importance dans la vie de la société aujourd'hui, et on n'a pas l'équilibre avec le sport de l'autre côté. Donc nos sports traditionnels, que ce soit le judo, la natation, l'athlétisme, la lutte, n'attirent pas les jeunes. Et c'est ça, et donc là, je suis complètement d'accord avec toi par rapport aux fédérations, par rapport... C'est des grosse machine assez vieillissante avec une inertie incroyable, et à un moment faut de la réactivité, faut s'adapter, faut proposer des choses qui soient ludiques, qui soient passionnantes. Et donc quand Kevin parle, il parle avec ses tripes, quand toi tu parles avec tes tripes, et nous aussi, parce que on sait ce qu'on peut vivre. Mais lorsqu'on va dans les écoles et je pose des questions aux enfants, et qui fait quoi comme sport, et je suis choqué, en fait, de voir à partir du collège surtout, mais il y a quasiment plus personne qui fait du sport, ou beaucoup moins, et selon les régions, en plus, et les moyens, ça change énormément. Donc il y a un vrai 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 gros travail à faire là-dessus.
Ça joue à la console quand même, et à l'ordinateur, c'est du sport désormais.
Les réseaux sociaux,
je plaisantais évidemment, mais surtout quoi, on parle souvent de budget, de moyens, et je suis désolé, faire courir les gamins ou installer un panier de basket, ou ça coûte pas très cher, et surtout qui ici n'a jamais été, on allait à l'école, on avait 2 heures de sport le matin ou l'après-midi, on trouvait ça génial, ça plaît aux gamins, et ça apprend aussi le vivre ensemble. Mais bon, soyons tous rassurés, le sport a été décrété grande cause nationale pour 2024 par notre première ministre. Alors j'imagine que vous êtes tous rassurés.
Dans tous les cas, on n'a pas le choix. Sinon, en termes d'image, en termes de diplomatie, à tous les niveaux, en fait, ça va pas aller. Je pense que là aussi, les politiques se rendent compte à quel point on n'y est pas, quoi. Et 2 ans avant, il faut y aller. Et encore une fois, c'est un catalyseur incroyable. Enfin, j'ai pas à convaincre Marie ou David là-dessus.
Et en tout cas, il sera temps, bien assez tôt, de faire d'instruire le bilan de l'Agence nationale du sport et de ce choix qu'on a fait.
Ah, si on avait 40 minutes, j'en aurais parlé aussi.
De cibler les investissements au détriment du saupoudrage, du plus grand nombre. On aura évidemment l'occasion d'en reparler à de nombreuses reprises, sans aucun doute, dans les grandes gueules du sport. Olivier, qui nous disait sur l'application Direct Studio que lui n'est pas d'accord avec toi, Marie, il pense que l'évaluation avec notes peut permettre justement de se dépasser.
Olivier, voilà. Je t'invite à prendre ton petit téléphone. Tu fais 32-16, tu vas tomber sur Amina, voilà. Et on en parle tout à l'heure.
32-16, on te donne rendez-vous dans les GG et vous à 11h45. Olivier, viens exprimer ton point de vue. Vous restez bien avec nous. Les grandes gueules du sport reviennent dans un instant. Il fait son début dans les grandes gueules du sport, mais il est également sur le grill dans un instant. Arnaud Assoumani, notre nouvelle GG, qui va se faire cuisiner par ses petits camarades dans un instant. À tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Simon Dutin.
À 10h32, vous êtes bien sur RMC, c'est le retour des grandes gueules du sport. On est ensemble en direct jusqu'à midi. Après quoi, vous retrouverez les paris RMC autour aujourd'hui de Benoît Boutron et Christophe Payet. C'est le retour du football, le Community Shield en Angleterre, City, Liverpool, les paris RMC, midi, 13h. Pour l'instant, on est toujours avec Marie Martineau, David Douillet, Arnaud Assoubani qui fait sa grande première dans l'émission et qui va s'installer dans le fauteuil du commissariat des GG. Dans un quart d'heure, le retour du zapping avec justement les préfets réticents à accueillir le Tour de France naturiste. C'est quand même pas de peau. On en parle à 10h45, mais pour l'instant, je vous le disais, c'est l'heure de l'interrogatoire des GG.
RMC.
Écoutez, laissez la police faire son travail. Dès que j'aurai de plus en plus d'informations, croyez bien que vous en serez les premiers informés.
L'interrogatoire des GG du sport.
Well, listen, let the police do the job. Be sure I give you answer as soon as possible, okay?
Alors je vous le disais, c'est notre nouvelle GG qui se plie à l'interrogatoire de ses petits camarades. On a branché les lumières blanches des projecteurs, il les a en plein visage. On a tout fait pour le déstabiliser, mais ça m'étonnerait qu'on y arrive. Nom, prénom, âge, profession, s'il vous plaît, monsieur.
Assoumani Arnaud, 36 ans et athlète professionnel spécialisé en son longueur.
Couleur préférée. Non, je plaisante. Est-ce que vous avez un palmarès à déclarer, monsieur Assoumani?
Palmarès champion paralympique, 5 fois médaillé paralympique, 2 fois champion du monde, 5 médailles mondiales également. Recordman du monde, toujours, ça tient encore. Et puis, je sais pas, au niveau européen, au niveau français, j'ai pas compté.
D'accord, oui, c'est tout de même, hein, j'ai envie de dire, on va déclarer ça à nos amis.
Je suis encore en carrière, donc on fera
à nos amis douaniers. Eh bien, justement, effectivement, Arnaud, tu as disputé tes premiers jeux à Athènes en 2004. Tu te prépares aux Jeux de Paris 2024. Comment expliques-tu cette longévité qu'on retrouve quand même plus fréquemment chez certains athlètes paralympiques, justement?
Ah, bah alors, bon, ça s'explique assez facilement. Pour moi, je suis peut-être pas le bon exemple. Moi, j'ai une agénésie, c'est une malformation de naissance congénitale de l'avant-bras gauche. Voilà, je porte différentes prothèses et donc je n'ai pas eu d'accident. Donc moi, j'ai commencé l'athlétisme assez jeune et donc le haut niveau assez jeune pour le coup, puisque à Athènes, j'avais 18 ans. Pour la plupart des sportifs et sportives paralympiques, beaucoup ont eu des accidents de vie. 50% des handicaps arrivent au cours de la vie. Donc certains étaient soit déjà sportifs de haut niveau, d'autres pas du tout et ont commencé en centre de rééducation ou après. Donc en fait, leur carrière commence plus âgée en fait tout simplement. Donc faut apprendre la nouvelle discipline ou les nouvelles disciplines, la spécificité, etc., etc. Donc il y a des carrières qui peuvent être plus longues et après c'est comme dans tous les sports. Sport olympique c'est exactement la même chose, ça dépend des disciplines. L'athlétisme sur des disciplines explosives, on va voir des âges moins élevés, moins importants comparé à la boccia où on pourrait avoir par exemple des carrières un petit peu plus longues et à d'autres disciplines qui sont un peu moins contraignantes physiquement.
Marie, une question pour Arnaud.
Je commence soft.
Oui, vas-y doucement.
Alors pourquoi le saut en longueur finalement, Arnaud?
C'est très simple, hein. Y a rien de rationnel. Je regardais la télé à la maison à l'âge de 5 ans. C'était mes premiers championnats du monde que je voyais. Il y avait Carl Lewis et Mike Powell, ils n'étaient pas les seuls dans le concours, mais je me rappelle d'eux surtout.
Ouais.
Mike Powell bat le record du monde avec 1m95 et je me rappelle voir des athlètes voler.
À Tokyo en 91.
C'était à Tokyo en 91. Je vois des athlètes voler, je suis fasciné par ça. Et je me retourne vers mon papa et je lui dis quand je serai grand, je ferai les Jeux Olympiques. Voilà. Bon, c'était assez simple. Et mon père a été dans la cuisine. J'ai appris dizaines d'années plus tard que mon père, qui est très pudique et qui m'en a jamais parlé d'ailleurs, a été pleuré en fait dans la cuisine. Donc, et j'ai commencé l'athlétisme à l'âge de 11 ans. Mes parents m'ont autorisé quand je suis arrivé au collège. Mais voilà, je pensais pas forcément réellement en faire une carrière.
Et alors, en quoi le fait qu'il te manque un bras t'empêche de concourir chez les valides finalement, puisque a priori, bêtement, je me dirais, tiens, il sert de ses jambes, tu vois, pour sauter.
Complètement, mais courez tous avec vos jambes et les bras derrière le dos. Oui. Non, mais alors le truc c'est que bien évidemment, alors moi déjà je participe valide et Andy, juste pour présenter un petit peu le paysage en France. On a deux fédérations différentes, ce qui n'est pas le cas forcément pour d'autres nations comme en Angleterre, comme en Australie, où on va avoir une fédération pour l'athlétisme. Et pour d'autres fédérations comme le tennis par exemple, qu'on soit en fauteuil ou debout, c'est la même fédération. En France, moi j'ai deux licences. J'ai une licence pour la fédé d'athlé et une licence pour la fédé handisport. J'ai commencé l'athlé à 11 ans avec la fédé d'athlé. Je connaissais pas du tout le handisport parce que très peu de visibilité à la télé. Ça existait, mais on n'entendait pas parler. Et puis je me suis pas dit, je vais faire du sport avec quelqu'un qui me ressemble et qui est exactement comme moi, qui est métisse. J'avais pas de dread à l'époque et à qui il manque un bras. C'était pas le but. Mon but c'était de m'amuser avec les copains et de faire des performances. Et donc j'ai fait mes premiers championnats de France. FFA, donc en valide, à l'âge de 16 ans, et c'est à la suite de ça, avec Gaël Gonzalez, mon ancien entraîneur, que je salue, qui s'est dit, en fait, ce serait intéressant de voir le niveau que tu as en e-sport. Donc j'ai été faire les championnats de France en salle l'année d'après, que j'ai remporté, et c'est là qu'on s'est rendu compte que à 17 ans, j'avais déjà un niveau international, j'étais déjà dans les trois meilleurs mondiaux. Mmh. Et donc, j'ai fait mon meilleur résultat, j'ai été médaille de bronze au championnat de France à Bercy en 2010. Voilà, derrière Salimis Diri, qui est le recordman de France en son longueur, et Cafécien Gomis, que je salue, enfin tous les deux, je les salue aussi.
Qui était tout récemment dans les grandes gueules du sport. Ouais.
C'est très très bien. Et Cafécien, qui a le plus grand palmarès en son longueur en France, donc j'étais super fier. Ça, c'était dans mon objectif de me qualifier pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Donc oui, je peux le faire, mais parce excellent, que entre guillemets, mon handicap est moins handicapant, moins challengeant que d'autres. Mais bien évidemment, qu'en termes de coordination, qu'en termes de masse au niveau du bras, qu'en termes de blessures également, parce que je compense constamment depuis que je suis petit. Lorsque je vais faire des courses et que je prends tout de la même main, les gens souvent peuvent être surpris ou parfois choqués. Mais moi, je suis habitué. Et au final, je fais de la musculation, donc naturellement, le corps se constitue comme ça. Et puis voilà, il y a des avantages et d'autres désavantages.
On notera tout de même Arnaud Assoumani qui s'est dit, je vais voir ce que je vaux sans longueur, record du monde, recordman du monde. Du coup, ça a été.
Ouais, ça s'est pas fait comme ça. Parce que
ouais, ça serait
trop simple.
J'imagine. Ça valait le coup. Si David Douillet se met au 100 longueur, il battra pas le record du monde.
Moi, je suis optimiste et je crois en David.
Brigadier Douillet, une question pour notre ami Arnaud Assoumani.
Simon, tes blagues à deux balles.
Mais qu'est-ce que tu ferais sans mes blagues à deux balles?
T'es lourd. Alors moi, je suis lourd physiquement, mais il y en a qui sont lourds, tu vois, lourds intellectuellement. Enfin Dieu, mais profite de cet été pour te remettre en question, Simon, je te jure. Tu dois faire cet effort.
Non, mais arrête, c'est Pierre qui lui souffle à l'oreille en plus. Prends ton bonne personne et tout.
Blague à part, Arnaud. Mon cher Arnaud Assoumani, tu as toujours affirmé, et c'est juste, que ce qui te définit le plus, c'est cette différence. Et tu dis que c'est une force. Explique-moi pourquoi. Moi, enfin, je sais, mais j'aimerais que tu l'expliques.
Je ne me définis pas que par ça, c'est-à-dire que justement on peut avoir tendance à penser que quelqu'un qui a un handicap, parce que voilà, à partir du moment où tu as un handicap, on peut te mettre l'étiquette et ce serait une espèce d'identité. C'est pas une identité, c'est une caractéristique parmi tant d'autres. Et pourquoi c'est une force? Parce que chaque différence est réellement une force. On est tous différents. Effectivement, on se regroupe, j'allais dire, au coin du feu. On est des animaux sociaux et quelque part, nos points communs vont faire qu'on va s'entendre et on va échanger. Seulement, on est tous et toutes différentes. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important puisque c'est là-dessus, pour moi, que les êtres humains, on est égaux. Et ensuite, pour moi, j'en ai fait une force parce que, justement, cette expérience, ces claques dans la figure, ces échecs, ces remises en question permanentes, et c'est pas juste par rapport au sport, c'est juste sur le regard que les jeunes ont pu porter sur moi lorsque j'étais à l'école, des adultes également. On se pose des questions, on se remet en question encore une fois, et puis surtout, on apprend encore plus de tolérance, en fait, et puis de bienveillance envers les autres et de curiosité. Donc moi, je me suis construit comme ça, j'ai vécu des moments qui ont été compliquées, d'harcèlement scolaire. J'aurais pu basculer sur quelque chose de complètement négatif ou de haine, et au final, je l'ai transformé en quelque chose de plutôt positif et d'essayer de partager cet état d'esprit et de voilà d'apporter avec le sport, parce que faire des châteaux de sable, bon, moi, je me dis comment ça peut servir à une échelle un peu plus grande.
Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Arnaud, désolé David, mais la question me semble importante de nos jours, et c'est peut-être une question qui va t'agacer, mais lorsqu'on est dans le cercle des sportifs handi de haut niveau, on a l'impression, et il y a des efforts qui ont été faits au niveau médiatique, au niveau sociétal, pour justement mettre en lumière notamment les Jeux paralympiques. Est-ce que il n'y a pas dans la façon de traiter les athlètes paralympiques, selon toi, parfois, je sais pas, une bien-pensance, une communication ultra positive, un petit peu sucrée, un petit peu mielleuse, qui fait qu'on n'a jamais le droit de critiquer les athlètes. Et est-ce que c'est pas agaçant, finalement, une espèce de condescendance, finalement, médiatique?
Si, j'ai complètement, envie de te poser la complètement, et c'est assez marrant parce que justement, ce serait considéré qu'on ne serait pas complètement humain. Ça voudrait dire qu'en fait, à partir du moment où on a un handicap, on n'a pas forcément de défaut. Bah,
le gentil sportif paralympique, le pauvre, regardez.
Bah non, bah, c'est marrant parce que d'ailleurs, je ne sais plus avec qui j'en parlais la dernière fois, et je me disais, au niveau politique, en fait, il y a un consensus, c'est sur le handicap.
Oui, c'est vrai.
Et c'est super drôle parce personne que je dis, bah, là au moins, au niveau idéologique, bon, au moins, très bien, j'ai l'impression que là, l'humanisme apparaît sur des questions du handicap. Non, en fait, il y a autant de personnes sympas, de personnes moins cool, chez les personnes qui ont un handicap et chez les personnes qui n'en ont pas. Donc il y a eu une campagne d'ailleurs pendant les Jeux paralympiques, c'était We the 15, donc nous les 15, parce que en gros 15% de la population mondiale sont considérés, enfin ont un handicap. Donc ça a fait un peu plus de 1,2 milliard de personnes et un peu plus de 12 millions en France. Et en fait, moi, le seul point commun que je peux voir entre toutes ces personnes, bah, c'est juste que ce sont des hommes et des femmes, quoi, avec des idéologies différentes, avec des genres différents, avec des affinités différentes. Donc il y a de tout et il faut pas le traiter. Bien évidemment qu'on peut critiquer, bien évidemment qu'on peut rigoler, qu'on peut se moquer. Après, est-ce qu'on est d'accord, pas d'accord, c'est autre chose.
Bien sûr.
Mais ne pas le faire, c'est un gros problème. Michael Jeremias, on dit la même chose et on est pas mal d'athlètes paralympiques à le dire. Après, je pense aussi qu'il peut avoir des susceptibilités. Et donc ça, bien évidemment, lorsqu'on fait des blagues, lorsqu'on fait des choses, il faut prendre en compte aussi le vécu de certaines personnes à ce niveau-là. Donc c'est plus de la bienveillance, mais c'est pas pour ça qu'on peut pas tacler aussi, parce qu'il y en a qui disent aussi des conneries. Donc lorsqu'on dit des conneries, bien évidemment, faut le faire. Après, c'est compliqué de pouvoir dire des conneries. Parce qu'en réalité, avoir une audience et accéder au public, comme là je l'ai avec vous ce matin, bah, en fait c'est très compliqué. C'est-à-dire que bah, moi je peux avoir cette opportunité tous les 4 ans. Enfin non, c'est caricatural parce que je fais partie des athlètes qui ont accès aux médias. Mais la plupart des athlètes, ça va être au moment où ils font des médailles, ouais, au moment de la zone mixte, lorsqu'ils sont interviewés, lorsque c'est en direct... Et s'il n'y a pas trop de décalage horaire, et puis peut-être après lorsqu'ils ont fait une médaille et qu'ils vont aller sur le plateau pour pouvoir en parler, ou peut-être après l'interview, après l'Élysée, c'est les seuls moments en fait où vous allez toucher le public. Il y a 0,6% je crois de sport para en France sur les antennes, sur les médias. Donc en fait c'est compliqué de pouvoir critiquer. Donc c'est plutôt bien que vous dites que les médias disent des choses positives, mais vous pouvez aussi critiquer, et c'est ce qu'on vous demande.
Et ben moi je trouve qu'il y a trop de places handicapées autour des supermarchés, voilà, et quand je galère à me garer, ça me saoule.
Voilà, mais écoute, voilà.
Mais t'es en situation de handicap lorsque t'es enceinte et que t'as besoin d'être assez près du supermarché pour te déplacer.
Je retiens très bien.
Oui.
D'accord.
En fait, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est justement aussi que le handicap, c'est pas quelque chose nécessairement de permanent, ça peut être temporaire, et c'est une situation, c'est des problématiques qu'on rencontre face à un environnement. Donc si je vous prends tous et toutes au son longueur, pas que David, vous allez tous et toutes être en situation de handicap par rapport à moi. Et donc voilà,
c'est vrai.
Effectivement.
C'est très vrai.
Tout est question de perspective, mon cher Arnaud. Le mot de la fin pour toi, David, vas-y.
Non, c'est pas le mot de la fin, mais j'aime. Enfin,
alors, ça, c'est pas toi qui décide.
On est contre. Hein. Il y a un modèle économique qui est terrible sur RMC. Tant mieux, ça veut dire que l'émission elle marche. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur Golden Arm, s'il te plaît?
Ah oui, complètement. Alors Golden Arm, c'est un concours que j'avais lancé en 2012 pour le grand public. Le but, c'était de dessiner la prothèse que j'allais porter pour les Jeux de Londres, les Jeux paralympiques, pour justement faire un lien entre la culture, la création artistique et puis le handicap. Et le thème, c'était super-héros. Alors pourquoi super-héros ? Non, on n'est pas des super-héros ou super-héroïnes, mais tout simplement pour prendre le contrepoint de, en fait, par rapport au handicap. Souvent, c'est du négatif qui est associé à ce terme. Et donc, ouais, c'était pour amener quelque chose d'un peu plus ludique. Et sur l'image, je me suis rendu compte réellement que cette prothèse est une originale et colorée. Un objet d'ouverture au dialogue. Quand je vais dans les écoles, quand je travaille avec les associations, et ben en fait, ça permet justement de poser des questions que nous, en tant qu'adultes, on pose pas forcément parce que on a, il y a des tabous, parce qu'on n'ose pas, on se dit, c'est pas forcément par malveillance, c'est juste, on se dit, mais je sais pas comment parler, ça va peut-être justement toucher la personne. Et ça, c'est super important justement de se dire, mais comment en fait, on peut faire le pont avec la création et aussi le grand public. Et donc, on a relancé l'année dernière avec mon équipe un autre concours où le but, c'est de récolter de l'argent pour offrir des prothèses myoélectriques, c'est des prothèses qui sont fonctionnelles et qui bougent, imprimées en 3D et design à des enfants. Parce que c'est les enfants, lorsqu'ils vont aller dans les écoles, lorsqu'ils sont avec leur famille, leurs amis, qui peuvent réellement changer le regard, la perception sur le handicap et puis que ça devienne banal en fait.
Il s'est brillamment plié à l'exercice de l'interrogatoire des GG Arnaud à Sabali.
Vous avez été plutôt sympa, le gris, il fait chaud déjà.
Ils sont toujours... Effectivement, ils sont toujours, toujours sympas dans l'interrogatoire.
Il est super validé, Arnaud.
Excellent, David Douillet, quintuple médaillé paralympique, quadruple médaillé au championnat du monde.
5 aussi.
5 aussi ?
Ouais.
Ah oui, parce qu'il y a une médaille sur 100 mètres.
C'est ça.
Ah oui, excuse-moi.
Excusez-moi, monsieur Soumani.
Pardon. Effectivement, ça c'était pour le palmarès. Désormais, il faut ajouter une petite ligne. Grande gueule du sport aussi également. Sur RMC, si j'avais eu plus de temps, je t'aurais demandé si tu peux confirmer que je suis bien meilleur que Jean-Christophe Drouet dans cette émission. Mais on en parlera une autre fois. Tu restes du coup avec nous après cet interrogatoire parce que les grandes gueules du sport reviennent dans un instant. C'est déjà l'heure du retour du zapping. À tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Simon Dutin.
À 10h53, vous êtes bien sur RMC. C'est le retour des grandes gueules du sport. On est ensemble en direct jusqu'à midi en compagnie aujourd'hui de Marie Martineau, David Douillet et Arnaud Assoumani qui fait sa grande première dans l'émission. Salut. Pour l'instant, c'est une immense réussite. À 11h, on passe la seconde. On se demandera si Novak Djokovic doit bénéficier d'une exemption pour disputer le prochain US Open alors qu'il n'est toujours pas vacciné. Mais pour l'instant, ça y est, on a retrouvé la zapette.
Le zapping des GG, le retour.
Grand débat, interrogatoire passionnant, réponse encore plus passionnante. Du coup, il y a le petit zapping, hein, vous l'aurez compris. Effectivement, mais alors quelle info, les amis. Les préfets, certains préfets qui refusent le passage du Tour de France naturiste, on s'en fout pas, Marie Martineau.
J'étais sûre que t'allais choisir celui-ci. Non, je m'en fous pas, je veux que tu nous racontes tout ça.
On s'en fout pas, David Douillet.
Je m'en fous complètement.
Arnaud Assoumani.
Par curiosité, juste pour savoir.
Savoir. Organisé du 14 juillet au 4 août et divisé en 16 étapes entre Rennes et Paris, la cyclonue, sorte de grande boucle, les attributs au vent, se heurte à un certain conservatisme de la part d'autorités locales réticentes au passage de la course dans leur ville. L'étape de mercredi entre Valforêt et Dijon a ainsi été amputée de son arrivée dans la ville bourguignonne. Ça avait été déjà le cas à Lille un peu plus tôt. Les trois premières étapes avaient été interdites par les préfectures d'Ille-et-Vilaine, de Loire-Atlantique et de Charente-Maritime. Pour rappel, la Cyclonue a pour objectif de défendre l'utilisation du vélo, ses usagers ainsi que la planète. Jean-Christophe Drouet a dû changer un petit peu le programme de ses vacances. Du coup, pourquoi on s'en fout pas, Marie Martineau ?
Pour plein de raisons. C'est toujours marrant quand même, comme la nudité met mal à l'aise certaines personnes et d'autres pas du tout. Alors moi, je fais partie de ceux que ça met pas mal à l'aise, mais je peux mettre mal à l'aise d'autres personnes parce qu'en vacances, je vais me trimballer avec les tchouches à l'air, tu vois. C'est rigolo. rigolo. Et donc voilà, toute cette histoire de cyclone nu. Alors en plus, pour défendre des valeurs de quoi? C'est parce que là, il fallait quand même une bonne...
Défendre l'utilisation du vélo, ses usagers, ainsi que la planète.
Bien sûr. Ah. Ben voilà, mais merveilleux. Très bonne cause, super. Faisons tous du vélo tout nu pour défendre la planète, c'est génial. Et voilà, les préfets sont rabat-joie.
Oh, oui, oh. Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Charente-Maritime. Bon, pas de
pourtant,
vélo.
Pourtant, c'est bien des régions de gauche quand même. Ils sont censés être un peu open mind et tout. Mais bon.
Voilà, pas de vélo, sans maillot. Arnaud Assoumani, petite réaction.
Oui, non, moi je trouve ça très bien. Enfin, je vois pas le souci, donc je trouve ça très bien que ça provoque aussi certains préfets. C'est dommage que ce soit voilà, qu'ils puissent pas aller partout en France.
Bah oui, voilà. On rappelle que c'est jusqu'au 4 août prochain. Ça te fait marrer, toi, David. Hein, t'as pas voulu dire, mais ça te fait marrer. On t'entend. Hein. Attention.
Après, David, tu es sur un vélo.
Je vais monter du granon.
Je vois des images techniques de danseuses, etc.
Enfin, voilà. Et ça se doit en danseuse sur l'Alpe d'Huez. Avec eux.
Ouais, non mais t'imagines, enfin ça doit être assez cocasse quand même, parce que le vélo, on sait très bien qu'il faut se mettre dans la roue pour profiter de l'aspiration. Avoir des moments des grands moments de solitude.
Mais surtout, en fait, d'un point de vue pratique, ça doit faire super mal. Parce que ça doit faire super mal.
Ça doit pas être très confortable en effet.
Bah surtout pour les garçons, quoi.
Ouais. Même pour les filles, en fait, les frottements à force d'être sur la selle.
Ouais, j'avoue.
Effectivement.
Bah, ils en mettent pas, hein, en fait. Hein.
Voilà, ce sujet passionnant.
Elle tenait à cœur, celle-ci.
Oui. Mais c'est du Simon, hein. C'est du Simon Dutte dans le texte. Hein.
Écoutez, il y a des infos à côté desquelles il ne faut pas passer, surtout dans le zapping des GG. Zapping court, hein, évidemment, vous avez prévenu, mais on aura d'autres infos demain à vous donner. Et, à nouveau des expérimentations, notamment le carton rouge dans le rugby. Désormais, lorsqu'un joueur sera exclu, on pourra le remplacer, après 20 minutes de temps de jeu. On va peut-être ouvrir un département sport naturiste sur le site de RMC Sport. On vous tiendra évidemment au courant. 10h57, les grandes gueules du sport reviennent dans un instant. On termine une riche deuxième heure. On va attaquer une troisième heure en parlant tennis avec Novak Djokovic. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
RMC Football. Samedi 4 mai à 15h au stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine le 4 mai à Montpellier avec RMC.